Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Elena Petrovna Blavatsky et la religion de la sagesse. Conférence de Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie, à Paris, espace Le Moulin, le mardi 28 mai 2019.
Dans une époque comme la nôtre, il est difficile d'imaginer qu'il y ait eu des époques dans lesquelles les êtres humains étaient intéressés pour se relier et partager, malgré leurs différences, des valeurs et des visions communes. C'est le sujet de la religion de la sagesse. Alors, avant, je vais vous raconter quelques éléments qui se sont passés il y a presque 2000 ans. Oui, il faut aller en arrière pour se projeter en avant, parce que ce sont des choses moins connues. Et au moins dans l'école, on n'explique pas trop. Au IIIe siècle, vers les années 250 après Jésus-Christ, grosso modo, à Alexandrie, il est apparu une école des philosophies éclectiques qui voulait relier les différents courants des pensées pour essayer de comprendre quels étaient les points communs et les valeurs communes d'ordre universel pour pouvoir vivre ensemble et se relier ensemble. C'est un événement majeur parce qu'en général, on ne pense pas qu'à cette époque-là, au milieu de l'Empire romain, au sud de la Méditerranée, une initiative de cet ordre-là aura lieu. C'est cette initiative, comme vous le verrez tout à l'heure, qui inspira ensuite Elena Petrovna Blavatsky pour créer la théosophie. Puisque ce mot théosophie, sagesse divine, était historiquement créé à cette époque-là, c'est-à-dire au IIIe siècle après Jésus-Christ, par l'école éclectique d'Alexandrie, qui est devenue ensuite les néoplatonismes. C'est une longue histoire, mais je ne vais pas raconter tous les détails, mais je voudrais quand même situer le contexte. Parce que il est rare de comprendre qu'à travers la philosophie comme point commun, des croyances et des fois distinctes peuvent dialoguer. Surtout aujourd'hui, que tout le monde, partie des gens sont intéressés par le dialogue entre les croyances, les foies et les visions du monde. Et là, il y a eu une expérience très intéressante parce qu'elle a duré longtemps. Ce n'est pas une petite expérience qui a duré quelques temps, puisque cette école néoplatonicienne, qui était la succession de l'Académie des Platons, a fonctionné jusqu'au VIe siècle, et fut fermé par Théodose, un empereur chrétien, qui ne voulait plus de dialogue. Je le résume. C'est résumé. Mais, comme je viens de l'expliquer, ça durait plusieurs siècles, cette démarche. C'est pas que ça durait quelques mois, etc. Cette initiative commence déjà quand les Ptolémées, qui sont des Grecs macédoniens, vont prendre le pouvoir sur l'Égypte. Ptolémée était un des généraux d'Alexandre le Grand, qui avait fondé Alexandrie, et à un moment donné, il décide, contre toute attente, de devenir le premier pharaon roi d'Égypte. Et il va même prendre la dépouille d'Alexandre, où il fera le tombeau, etc. Mais le plus important, et c'est ça où on voit que Ptolémée est un homme très particulier, c'est la création de sa bibliothèque, la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, où il fut réuni jusqu'à 1 million de manuscrits, quelques siècles après, pour essayer de thésauriser le savoir d'Orient et d'Occident, et pas simplement de la Méditerranée. Puisqu'Alexandrie était arrivée des sages, qui furent appelés par les Alexandrins hymnosophes, c'est-à-dire des sages qui faisait de la gymnastique, ça s'appelle un yogi. en langue sanscrite, et tous ces contacts furent établis à Alexandrie, où les premiers ponts historiquement connus des relations entre les philosophies et les croyances de l'Orient et l'Occident se sont établis historiquement. C'est la première fois. Tout ceci va amener doucement et à l'émergence quelques siècles plus tard, dans cette même ville, de cette école éclectique. Des gens qui, ce mouvement, fut créé par un être très particulier, très humble, très simple, mais qui impactait son époque, très peu connu, Ammonius Saccas. Je vous l'ai prise. Qui a vécu 875 à 242 après Jésus-Christ. On disait qu'Ammonius Saccas était finalement un docker, comme métier. Drôle de docker, parce que autour de lui, les plus grands esprits d'Alexandrie se sont réunis, tantôt des païens comme des chrétiens. Clément d'Alexandrie fut un de ses disciples, je le dis pour situer, mais aussi et fondamentalement Plotin, qui fut son disciple à partir de qu'il avait 28 ans, pendant 10 ans. Les dernières 10 ans de la vie d'Ammonius Saccas, c'est Plotin. Et Plotin, comme Ammonius Saccas, était né en Égypte, était abreuvé de la sagesse égyptienne, et pas simplement de la philosophie grecque. Et ensuite, il va établir à Rome son école de philosophie néoplatonicienne. Donc, ce personnage que personne connaît bien qui il était, a influencé énormément de monde autour de lui, avec une idée essentielle, c'est de devenir philalétène, phila, philia, ami, amoureux de l'éteia, la vérité. Donc, amoureux de la vérité. C'est une autre façon de dire philosophie. Philosophie, c'est amour de la sagesse, et philalétène veut dire amoureux de la vérité. Donc, quel est l'objectif d'Ammonius Saccas? C'est d'expliquer que derrière les croyances des uns et des autres, les philosophies des uns et des autres, il y avait une vérité commune qu'il fallait rencontrer et faire vivre. C'est l'idée centrale de cette école. Qui, en ce qui concerne Nouvelle Acropole, nous a évidemment inspirés, puisqu'elle est une clé pour nous essentielle. Et c'est pour cela qu'on propose les fameux cours des philosophies d'Occident, parce que c'est toujours la même histoire. Il faut créer les liens et des éléments transversaux entre les différents apports et civilisations. Donc, Ammonius Saccas va établir l'éclectisme théosophique, parce qu'il va parler de la sagesse divine et la sagesse des dieux. Pas simplement des dieux, mais des dieux, qui sont les manifestations, selon ce qu'il explique, des naissances racines de toutes les choses. Il va expliquer que Dieu en tant que tel ne peut pas être considéré comme une personne. Parce que lui est né dans une famille chrétienne, Ammonius Saccas, mais n'accepte pas la vision dogmatique du christianisme. Je résume. Mais n'a rien contre le Christ, hein, ni beaucoup des évangiles, ni de ce qui est expliqué, etc. Et il dit, il faut sortir de cette division étroite. Donc, ce qu'il va expliquer, c'est que la divinité en tant que telle est absolue, et mystérieuse pour l'âme humaine et incompréhensible. Par contre, les dieux, si j'ose dire, sont les manifestations de cette divinité absolue dans la multiplicité de l'espace-temps, ici et maintenant. Voilà. Dieu est un dans son mystère, multiple dans sa manifestation. En cela, il reprend les enseignements développés à la 19e dynastie égyptienne par l'école d'Amon suite à l'hérésie d'Akhenaton. Où il est clairement établi, je ne vais pas développer non plus, dans cette nouvelle théologie qui va être créée, justement la dialectique entre l'un et le multiple, en expliquant que Dieu est nature et esprit en même temps. Donc, non-dissociation entre la substance et l'esprit. Peut-être c'est un peu trop sophistiqué, mais j'essaye de vous l'expliquer rapidement. La méthode qu'il va utiliser à Amon Yosakas, c'est l'analogie. Comment on peut, sans rentrer en discussion rationaliste, trop brutale, les uns avec les autres, c'est à travers la voie symbolique. Créer des analogies, des relations analogues, mais pas identiques. Quand on fait des analogies, on fait des relations entre des choses qui sont distinctes, mais qui ont des points communs ou sympathiques entre eux pour se relier. Mais à aucun moment, les éléments que l'on considère analogues sont considérés identiques. Donc, c'est analogue, mais pas pareil. La vision de la lumière bouddhiste et de la lumière christique est analogue, mais pas identique. Donc, l'erreur serait de dire « c'est la même chose » et généraliser. Non, c'est pas la même chose, mais c'est pas non plus une chose totalement opposée. Il y a des liens. Et c'est pour ça qu'ils vont appeler cette école analogiste. Les gens qui venaient, c'était des analogistes, des gens qui trouvaient des relations entre les différentes formes de voir et de penser. Et ils faisaient donc des analogies. Et ils discutaient par analogie. Et un oiseau peut symboliser la liberté. C'est une analogie que nous sommes en train de faire entre la possibilité de prendre son envol et nous pouvoir prendre notre envol et nous libérer des pleins de contraintes et des conditionnements. Mais évidemment, l'envol de l'âme n'est pas l'envol de l'oiseau. C'est pas identique. C'est une analogie, c'est une métaphore qui permet de faire comprendre quelque chose à travers une image. J'espère que c'est plus ou moins clair. Et ils expliquaient que tous les mythes, tous les mystères qu'ils ont racontés, qu'ils ont expliqués à leur époque, et comme étant des réalités physiques, étaient à comprendre dans leur expression symbolique et pas simplement historique. Ils sont très en avance sur beaucoup de choses dans ce qu'ils sont en train d'expliquer. Il veut réconcilier toutes les religions en montrant l'identité et leur origine et d'établir une croyance universelle basée sur la morale. Parce que il dit Amon Yosakas et ses successeurs, s'il y a un point sur lequel on peut se mettre tous d'accord, c'est sur une vie morale. Et quels sont les points de moralité, pas de moralité, mange pas ceci, ou moralisation. La vie morale implique le discernement entre ce qui fait du bien et ce qui fait mal. La distinction entre ce qui fait du bien à l'âme, je veux dire, à l'esprit de l'être humain, et ce qui fait mal à l'âme humaine, et le rapport à la notion de la dimension morale de l'existence. Et le point de départ de toute démarche spirituelle est un comportement d'ordre moral, et pas simplement intellectuel, puisque la vie morale implique appliquer des valeurs au quotidien. Et c'est comme ça que l'école éclectique expliquait, on peut s'entendre sur des valeurs à appliquer dans le quotidien, dans notre vie quotidienne, qui sont d'ordre moral. Ensuite, on peut philosopher pour trouver le sens à cette existence, donc de mieux comprendre ce qui est vrai de ce qui est faux, que c'est ce qu'apporte la philosophie, discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ensuite, on peut faire une vie spirituelle, c'est-à-dire entrer en lien avec le divin en tant qu'unité cosmique. Parce qu'on ne peut pas rentrer en contact avec le divin en tant qu'unité cosmique, c'est-à-dire avec l'unité de l'univers, avec ça, si on ne pratique pas concrètement une ascèse de base, et si on n'est pas capable de comprendre le sens de ce qui est illusoire et ce qui est essentiel. La vie spirituelle commence à partir de là. C'est pour ça qu'il n'est pas évident d'être spirituel. Parce que ça implique une démarche sur soi très profonde qui réclame une discipline de vie, un art de vivre. Ceci, vous le trouverez dans toutes les traditions et dans toutes les grandes écoles de philosophie. C'est un grand point commun. Et sur ce point commun, nous pouvons tous nous relier. Parce que tous ceux qui auraient ce type de démarche, bon, sont analogiquement dans le même chemin. Bon, voilà l'idée que je voulais expliquer. Et c'est comme ça qu'est née donc cette démarche qui est basée sur un système de méditation. Pour se internaliser, pour se retrouver à l'intérieur de soi, puisque si on ne se retrouve pas à l'intérieur de soi, si on ne trouve pas la connectique intérieure, on ne peut pas dialoguer avec l'univers. Et donc cette interconnexion entre ce qui est dedans en soi, avec ce qui est dedans dans la nature, l'univers et ses principes et ses lois n'est pas possible. Et la conclusion de ce type de méditation amenée à l'extase. L'extase, si on peut prendre le mot grec, on va l'appeler théophanie. Apparition du divin, expression du divin. C'est-à-dire que c'est l'individu qui doit avoir une sorte d'apparition du divin en lui et vit une théophanie qui est une élévation de son esprit, qu'on peut aussi appeler illumination, si vous voulez, et en sanskrit, samadhi. On retrouve les mêmes concepts. Je voudrais vous lire simplement ce que Platon expliquait 600 ans avant, hein, notre ami Ammonio Saccas, c'est un continuum sur cette idée de l'extase, qui est la base pour pratiquer la religion de la sagesse. Parce que la religion de la sagesse n'est pas écrite dans les livres. Elle est à capter et est induite dans ce qu'on trouve dans les livres et dans les différentes expériences. C'est pour ça qu'on parle de la religion de la sagesse comme quelque chose de mystérieux, de secret ou de caché, et n'est pas ni secrète ni cachée dans le sens qu'on l'occulte, sinon que elle doit se pratiquer, elle doit se connaître à partir d'une démarche intérieure. C'est ça le grand mystère. C'est vraiment un grand mystère. Donc, qu'est-ce qu'il dit Platon? Il dit, la méditation est une prière silencieuse et non parlée. L'ardente orientation de l'âme vers Dieu, non pour lui demander un bien particulier, mais pour le bien lui-même, pour le bien suprême et universel, dont nous sommes une portion sur la terre et de l'essence duquel nous avons tous émergé. Alors, dit-il, l'âme est libre de la contrainte du corps et sa partie la plus noble est unie à sa partie supérieure et devient participante à la sagesse et à la prévision, à la vision des êtres supérieurs. Voilà Platon, qui est à l'origine du platonisme, bon, de tout ce qui va se suivre. Donc, ce qu'il explique clairement, paradoxalement, mais qu'aujourd'hui, nous, en anthropologie, c'est devenu très clair, même si c'est choquant pour la plupart, je veux ce que je veux dire, avant le verbe, il y avait l'image. Et c'est pour ça qu'il parle de la prière silencieuse sans parole. D'ailleurs, toutes les démarches traditionnelles de méditation, et à un moment donné, travaillent sur la visualisation d'images et de plus en plus abstraites, jusqu'à que la captation des sagesses qui sont à l'intérieur de ces images s'exprime. Parce que l'objectif de cette pratique, c'est que l'objet des méditations vous explique sa propre nature, et pas que vous projetez ce que vous croyez que cette chose est. Donc vous voyez, c'est une démarche à l'inverse de ce qu'on aurait souhaité. C'est pour cela que, écoutons Plotin maintenant, le disciple d'Ammonius Saccas, qui définit l'extase. Lui aussi, mais d'une façon plus... L'extase réelle a été définie par Plotin comme la libération de l'intelligence de sa conscience finie, aux limites, et sa fusion avec l'infini. Donc, libération de l'intelligence. De quoi on parle avec quand on parle d'intelligence? Évidemment, quand on dit que quelqu'un est intelligent, on parle à ses capacités intellectuelles. C'est pas l'intelligence dont on est en train de parler. Le nous, en grec, le manas, en sanskrit, est la capacité de se connecter et de voir l'existence comme unité. Voir les choses dans leur unité. Malgré tous les particularismes qui existent, n'est pas voir les parties, l'unité comme une addition des parties, mais l'unité comme l'interaction entre les parties, et voir d'abord l'unité et ensuite les détails. Ça, ça nous coûte beaucoup, parce que nous, on aime bien les détails, et on chipote sur les détails. Ça s'appelle couper des cheveux en quatre. Et on coupe les cheveux en quatre avec notre intellect ou mental limité. Et la grande bataille en nous-mêmes, c'est entre cet ego personnel qui veut voir toujours des détails et qui lutte pour une partie, et notre soi ou esprit qui veut voir les choses dans l'union, l'unité et l'intégration des choses. Et ça, c'est la vraie bataille. C'est un vrai combat. Peut-être vous l'avez eu aussi, ou vous l'avez encore. Mais en tout cas, c'est une bonne bataille. C'est une très bonne orientation. Et c'est bon d'apprendre à s'observer là-dessus. C'est pour ça qu'il dit « Libération de l'intelligence, donc de son esprit, discernante. » Parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de comprendre le monde et nous libérer de ce monde. Parce que si on ne le comprend pas, on ne peut pas se libérer, on ne peut pas se sortir de son conditionnement. L'intelligence le peut. L'étude analytique ne le peut pas, parce qu'il coupe le monde aux morceaux. Et il ne peut pas voir l'unité. Et c'est pour ça qu'il dit... Libération de l'intelligence, de sa conscience, finie, de sa petite conscience qui chipote, qui calcule, Vous savez, on a un calculateur tout le temps. Hein. Cette conférence va m'apporter quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça me servira à quoi? Finalement, je vais les pratiquer de quelle manière? Hein, ça, bon. Ça s'appelle la conscience finie, hein, ou limitée. Oui. Parce que c'est très difficile d'entendre quelque chose sans tomber dans le calcul. Et si on n'apprend pas à écouter des choses sans tomber dans le calcul, on ne peut pas s'ouvrir. On ne peut pas se dilater. Et la conscience dilatée s'appelle de la mystique. Et donc, sans état mystique intérieur, il est très difficile d'atteindre cette sagesse dont je vous parle. Qui, bien sûr, vous avez compris, est une sagesse invisible et universelle. Donc, pour ça, j'ai beaucoup aimé la définition de Plotin. Et il dit, bon, mais quand il se libère de ce petit qui calcule tout le temps, il peut s'élever, il peut monter au-delà de lui-même, au-dessus de lui-même, il peut se transcender et rentrer en contact avec l'infini et dire Eureka, j'ai trouvé. Parce que chaque fois qu'on dit Eureka, ça veut dire qu'on a compris quelque chose, une loi universelle. Quand le pauvre Archimède a quitté sa baignoire en courant ce qu'il avait compris, il venait de toucher une loi de la nature. Donc il était en contact avec quelque chose d'universel. Et seulement l'intelligence est capable de comprendre ce qui est universel. Mais la pensée analytique ne peut pas comprendre ce qui est universel, parce qu'elle n'est pas préparée pour cela. Donc il faut qu'on comprenne que nous avons un double mental. Comprenez, pas un, mais deux. Et qu'il faut qu'on organise notre conscience pour observer comment ils se bagarrent les deux, ou comment on les relie pour qu'une fois qu'on a vu ce qu'on veut faire, une fois que les choses sont dans la sagesse, bon, il nous explique les tout petits calculateurs. Bon, mais on va faire comment? Le comment, c'est le petit. Le quoi, c'est le grand. Et on peut relier le quoi avec le comment. Mais on ne peut jamais commencer par le comment. Il faut toujours commencer par quoi. Et si la nécessité de ce quoi est vraiment importante, les moyens, par sympathie, vu la nécessité qui existe, arrivent. Et s'ils n'arrivent pas, c'est que la nécessité n'est pas suffisante. Donc il faut tout vérifier. Voilà. Bon. Je voulais vous présenter cette école de philosophie qui a inspiré ensuite Elena Petrovna Blavatsky pour créer son propre mouvement. Parce que rien ne vient de rien, vous comprenez? Donc, on a toujours des ancêtres. Il y a toujours quelque chose avant. Alors, dans l'école éclectique, il y avait aussi la nature immortelle de l'âme humaine. Il y avait trois principes essentiels. Cette essence infinie, racine, que je viens d'expliquer, qui est difficile à comprendre et à connaître, mais qu'on peut approcher par les voies que je viens d'expliquer. La prise de conscience de que l'âme humaine est immortelle, éternelle, et donc qu'elle peut cohabiter, parce qu'elle est, ils expliquaient, c'est un rayon de l'âme du monde, un rayon de Dieu. Donc, nous serions une étincelle de cette multiplicité qui s'est répandue dans le monde. Donc ça, c'est par rapport au deuxième. Et le troisième mot, théurgie, qui est encore plus fort, plus complexe, veut dire travail divin, théurgie. Qu'est-ce qu'il disait avec ça? Chaque être humain, pour remonter la pente vers l'origine, vers la source, doit faire un travail en soi qui lui permette, par des échelles, faire un travail divin, c'est-à-dire d'éveiller petit à petit ce qui est supérieur. Et ceci permet la connectique, la communion et la communication avec ce qui est spirituel, avec ce qui est divin. Ça, c'est ce qu'on appelle le travail théurgique. Ne pensez pas que c'est des gris ou de la magie pour faire, c'est une amulette. Hein. C'est comment on rentre en communication avec les grands principes universels. Et ça, c'est quelque chose de pratique qui demande une grande assise. Parce que eux, ils étaient convaincus de quoi? Et ensuite, ceci est passé dans le christianisme et ailleurs. C'est que l'autolimitation de ses besoins, la maîtrise de son corps, de ses émotions et de ses pensées, permettait à l'être humain de revenir à l'état originel. Et par le fait de pouvoir revenir petit à petit à ces états originels, de pouvoir entrer en captation et en communion avec les présences de l'origine des choses. C'est toutes les voies de base le préconisent. Dans une époque comme la nôtre qui gaspille beaucoup, l'autolimitation et la sobriété s'imposent. Sans peut-être devenir un saint, on peut quand même commencer un travail de auto-limitation pour mieux respecter la nature, mieux respecter les autres et essayer de purifier ce qui est autour de nous. Voilà. Donc, pour moi, c'est totale actualité. Il y a une autre façon de dire travail divin, qui est aussi un mot qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas entendre. Sacrifice. Œuvre sacrée. Les gens associent les sacrifices à la souffrance, à quitter, se couper un bras, bon, bref. Non, c'est pas ça. L'esprit des sacrifices, c'est offrir le meilleur de soi-même. Parce que on sacrifie comment? Et dans les récoltes, les paysans donnaient aux divinités les fruits primeurs, le meilleur. Donc, un sacrifice, c'est comment je fais pour donner le meilleur de moi-même à l'ensemble. Et c'est ça le sacrifice. Je retiens pas le meilleur de moi, je le donne en m'aidonnant. Et le fait de donner en se donnant est capital. Parce que dans ces cas-là, il n'y a plus de calcul. Et ça s'appelle simplement amour. Parce qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas je te donne ceci, tu me donnes cela, on ne fait pas de commerce. Ça, c'est le sacrifice. Et ça, c'est la vraie théurgie. Dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, la première caractéristique qu'il doit avoir quelqu'un qui veut rentrer dans le sentier s'appelle dana, le don de sa présence. C'est exactement la même histoire. Pour ça, je vous dis, il y a un courant transversal des valeurs et des compréhensions des choses qui, peu importe les continents, vous allez vous retrouver. Et c'est la raison pour laquelle, là, je viens d'achever, à essayer, pour démontrer tout ça, de faire un immense travail pour une époque où il y avait très peu de moyens, d'études comparatives des religions et des symbolismes du monde. Il est très étonnant la bibliographie qu'elle pouvait manier pour pouvoir expliquer, parce que pourquoi elle le faisait? Pour dire, bon, vous voyez, il y a des points communs, et la religion sagesse s'exprime à travers tout cela. Dès là, l'intérêt de ces études comparées n'est pas simplement avec une curiosité simplement intellectuelle, mais pour se rendre compte derrière les apparences de chaque message spirituel, qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui est le lien, et peut-être que les gens se rendent compte qu'il y a un monde d'apparence, de l'esprit en fonction d'une culture, d'une époque, des tabous, des choses populaires, et que derrière, il y a quelque chose de plus profond, et c'est par ce qui est plus profond que nous devons nous relier. Ça, c'était l'essai qu'il a fait, et c'est comme ça qu'il a créé le mot sagesse, religion de la sagesse. Et quand on l'a demandé, parce que religion de la sagesse, c'est quand même ambigu. Parce que pourquoi religion? C'était dans le sens de, vous savez, religare, s'unir. Unir à quoi? À la sagesse. Et en même temps, de faire de la vie une cérémonie pour se relier à la sagesse. Et cette sagesse, vous l'avez compris, est une sagesse sous-jacente, invisible, qu'il faut capter, qu'il faut comprendre. Alors, quand on lui a demandé, bon, mais d'où vient la sagesse, cette sagesse? Alors là, c'était intéressant, sa réponse. Elle a dit, la véritable essence de la sagesse est contenue dans le non-être. C'est très rassurant. Oui. Donc, pour vous donner la nature de cette sagesse, elle explique la nature, l'origine, c'est le non-être. Alors, je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, je vais traduire. L'être, même s'il était supérieur, est quelque chose de cognoscible, peut arriver à le comprendre. C'est l'ensemble des choses supérieures dont l'essence est compréhensible. On peut l'approcher, l'être. Et probablement une des erreurs de la philosophie occidentale, et peut-être parvenu de ne pas arriver à le faire, c'était de dire, bon, puisque le non-être n'est pas, on l'exclut. Et il n'y en a que de l'être. Et l'être se manifeste par l'existence. L'être se manifeste par l'existence. Bon, donc par le devenir, dans le temps. Quelle est la chose qui apporte le non-être dans la relation à l'être? C'est que le non-être, comme disaient les Égyptiens, il y a 5000 ans, il expliquait que les choses venaient du non-être encore. Ça s'appelait, pour les Égyptiens, le noun, une notion de virtualité. Les choses ne sont pas encore. Et avec ceci, le non-être est la réserve de toutes les virtualités. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en science le vide. Et quand on utilise aujourd'hui, on essaie d'investiguer le vide, on voit qu'il est plein de choses. Je vous conseille des ouvrages de mon ami Trix Antoine, je n'ai pas de droits d'auteur là-dessus. Il a fait des très bonnes explications sur le vide qui est plein et une analogie avec les différentes philosophies, notamment d'Orient. Le non-être est notre potentiel. Nous ne sommes pas encore quelque chose que nous souhaitons. Comprenez? Vous êtes quelque chose, mais vous n'êtes pas encore quelque chose. Et les Égyptiens expliquaient que nous sommes dans le monde, dans le plan de la réalité, où les choses sont encore. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus. Je pense que vous êtes tous au courant. Donc, on est entre deux réalités. La réalité de ce qui n'est pas encore, dans virtualité et potentialité, et la réalité de ce qui est encore, mais que peut ne plus être. Donc, il y a un circuit. Donc, quand elle explique que la sagesse vient du non-être, elle est en train d'expliquer que la sagesse, la vraie sagesse, vient de ce qui est potentiel encore et qu'on n'a pas encore actualisé, encore compris, encore assimilé. Et que donc, il faut se vider la tête pour se la remplir. J'essaie de résumer. Et ceci s'est fait avec la méditation. La fameuse méditation qui conduit à l'extase, parce que c'est une méditation silencieuse. J'essaie de reboucler pour que vous compreniez. Donc, c'est cette sagesse-là qui est celle de la religion de la sagesse. Et elle va essayer, à travers ses ouvrages, de donner des bribes de cette forme de sagesse. Elle ne prétend pas du tout dire, voilà, la sagesse dévoilée, ça serait un peu trop. trois choses de cette sagesse qui peuvent nous indiquer que c'est de la sagesse dont on est en train de parler. L'universalité de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort et que rien n'est inerte, y compris les pierres. C'est-à-dire que tout est traversé par la vie. Et que nous, nous nous arrêtons toujours à des fragments de la vie, évidemment, notre propre corps, les objets qu'on voit, etc. Mais l'idée fondamentale, c'est l'universalité de la vie, qui est une, inaltérable et omniprésente. Tout est vivant et unifié. Le deuxième point, c'est l'universalité de la conscience. C'est-à-dire que la conscience universelle, c'est-à-dire il y a une conscience universelle de ce point de vue, et pas simplement une conscience personnelle, et séparée de l'ensemble. La conscience universelle contient toutes les consciences particulières. Donc à travers la capacité de développer une conscience universelle en nous, nous pouvons capter la conscience universelle de l'univers. Voilà le jeu. Or, le jeu, c'est justement ce qu'il ne faut pas. Le nous. Donc, tout est conscience, et il y a des plans de conscience très différentes. Et c'est pour ça que dans les traditions, il y a plein de hiérarchies divines, il y a plein de hiérarchies des choses, parce que ce sont des états de conscience et des niveaux de vie des consciences. Qu'il faut mieux comprendre comme ça que simplement il y a des entités seulement, etc. Et en ce qui concerne l'homme, les maîtres de sagesse seraient le top conscience de l'humanité, et c'est eux qui transmettent cette sagesse. Donc, ils expliquent qu'il y a une évolution dans cette conscience de la matière et de l'esprit. Je m'explique. La matière, si vous regardez du côté matérialiste, sans se problématiser, vous verrez que depuis ce qu'on appelle le Big Bang, l'évolution a une constante. Plus les choses évoluent, plus il y a des psychismes, donc des consciences. Tout va vers une tendance qui est la conscience. C'est intéressant. Et la matière se spiritualise petit à petit. Elle devient moins brute, etc., etc. Quand on voit la légèreté et la subtilité de nos corps, de notre biologie, et on doit devenir très respectueux de la question. Mais l'esprit, lui, peut se matérialiser, descendre. Quand on veut faire un projet, l'idéal, c'est d'avoir d'abord une idée. L'idée est dans l'esprit. Et après, il devient, je ne sais pas, ça. Espérons que ce sera mieux. Donc, il s'est matérialisé. Il y a une double sens. La matière aimante, l'esprit peut descendre. C'est-à-dire qu'il y a connexion entre esprit et matière à travers la conscience. Et le troisième point, c'est que l'univers est périodique, que tout marche par cycle, et que les choses ne sont pas d'ordre linéaire, dans une progression permanente. Les cycles sont intéressants parce que ça monte, ça descend et ça remonte. Oui, il y a une direction évolutive dans laquelle ça progresse. Mais pour nous, êtres humains, c'est difficile d'accepter les cycles. Parce que d'un coup, ça marchait si bien, et d'un coup, faut, c'est réintroduire en soi, parce qu'il y a plein de choses qu'il faut digérer. Pourquoi? Les cycles sont descendants aussi, mais pour assimiler. On doit assimiler, comme il faut digérer. Et c'est à ça qui sert les cycles. Les cycles, nous les provoquons aussi par, les orientaux diraient, par notre karma, par la loi des causes et effets. Et donc, c'est une évolution progressive et cyclique, dans laquelle l'idée de répétition est très importante. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous êtes obligé de répéter la chose. Vous voulez apprendre un instrument, il va falloir répéter, faire des gammes. Vous voulez peindre, c'est pareil. Vous voulez faire n'importe quoi, il va falloir répéter. Mais l'art de la répétition, en ce qui concerne l'être humain, est l'art de placer sa conscience dans l'action qu'on mène. Ce qui fait que tout ce qu'on répète est différent chaque fois. Donc, on le répète, et en même temps, c'est différent. Et ça, c'est tout l'intérêt de la répétition. Parce qu'on répète, on peut entrer en profondeur avec un sujet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas la répétition. Et ils pensent que ce qu'ils ont fait une fois, ils le savent. Et ils l'ont compris. Ils le dominent et le contrôlent. Mais c'est totalement faux. Et ça, c'est la grande problématique et défi de notre époque. Parce que comme c'est tout de suite, tout est tout de suite, et qu'on n'aime pas la répétition parce qu'on pense que c'est monotone, parce qu'on oublie la conscience. Et là, c'est comme écouter de la musique. Vous aimez un morceau de musique. Si vous le réécoutez, vous l'entendrez d'une autre manière, parce que vous-même, vous avez un peu changé. Et il ne sera pas le même morceau. Il sera légèrement autre. Et si toute action pouvait devenir ce type de répétition, en faisant moins de choses, on apprendrait plus. Et on se disperserait moins. Ce qui veut dire gagner beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Bon, voilà la sagesse, la religion de la sagesse. C'était un peu long peut-être, mais ce que j'ai voulu vous expliquer, c'était ça. Pour l'acquérir, il faut apprendre la connaissance essentielle, il faut aller vers l'essentiel, il faut apprendre à voir ce qui est derrière les choses. Un peu ce que disait le petit prince, l'essentiel est invisible aux yeux. Donc il faut s'exercer les yeux pour voir ce qu'on ne voit pas. Accepter ça, c'est la première chose. Et sortir du monde des apparences, tantôt dans ce qu'on regarde et tantôt par rapport à soi, parce qu'on tient trop à nos apparences, et c'est difficile. Utiliser cette connaissance pour le bien des autres et de soi-même, parce que cette connaissance ne sert pas si on ne la donne pas, en action, en transmission, et justement la transmission de la connaissance aux autres. Donc, apprendre, pratiquer et transmettre. C'est simple finalement, pour être sage. Ça peut se résumer en trois mots aussi. Comprendre, parce qu'il faut d'abord comprendre. Il y a quelque chose à comprendre, il faut la comprendre. Très bien. Devenir responsable de ce qu'on a compris. Parce que chaque fois qu'on a compris quelque chose, on est responsable de ce qu'on a compris. Si on laisse tomber ce qu'on a compris, et on n'agit pas selon ce qu'on a compris, on est en train de gaspiller et de souiller ce qu'on a compris. Donc il faut devenir responsable de ce qu'on a compris. Et quand on a compris, et on est devenu responsable, là on peut agir correctement. L'action, si au préalable, n'est pas mû par la compréhension et la responsabilité de ce qu'on a compris, elle ne sera pas correcte. beaucoup de nos actions ne marchent pas. Parfois, vous avez voulu faire ceci, ça n'a pas marché. Il faut donc, encore une fois, vérifier. D'abord, si on a bien compris. Deux, si on s'est senti responsable pleinement des conséquences de la compréhension. Parce que maintenant que vous savez quelque chose, vous êtes dépositaire. Et donc, vous êtes responsable de ce que vous avez en vous. Et pas simplement consommateur de ce que vous avez en vous. Donc c'est un grand changement de perspective, vous comprenez, la pratique de cet amour de la sagesse ou de la vérité. C'est un... Je pense que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment à 180 degrés. Et je suis heureux de vous le proposer. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui ne marche pas aussi bien. Donc il faut trouver d'autres alternatives pour qu'il y ait une belle transition vers une autre société, une autre façon de voir l'humanité et les gens, une autre façon de vivre ensemble. Ça ne se fait pas avec des grands coups de rhétorique, ni des grandes lois. Les meilleures lois, les meilleures constitutions, s'il n'y a pas d'individus qui peuvent le vivre et les pratiquer, ne sert strictement à rien. Donc, la première chose qu'il faut obtenir, c'est des individus qui aiment la pratique de la sagesse. Et le reste viendra tout seul. C'est pour ça que les vrais changements commencent avec vous-même. Donc, devenez le changement que vous voulez. C'est ça que je vous souhaite et vous remercie. Voilà.